0,17%, pliant donc sous les craintes liées à la pandémie de coronavirus et de ces nouvelles mesures restrictives que vient d'annoncer le gouvernement allemand et dont je vous parlais il y a l'instant dans le journal. Merci de nous écouter. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver bien entendu tous les jours, 24 heures sur 24. Il suffit pour cela de vous connecter sur le site internet de RFI, c'est-à-dire www.rfi.fr. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Radio G. 105 FM.
Walking in the midnight sun.
Vous le savez, c'est le moment médiatique le plus attendu de cette journée. C'est l'oreille curieuse, votre quotidienne culturelle et locale sur Radio G. Alors bien sûr, on est un peu sonné ou inquiet d'avance. On espère qu'on pourra continuer à vous parler de choses à faire à Angers et tout simplement continuer à faire des émissions depuis le studio. Pour l'heure, nous sommes bien ensemble et au programme de cette émission, la dernière avant la prochaine, Nicolas sera là avec sa chronique Le Prêt à Penser, dans laquelle il nous parle de psychologie. Je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission pour découvrir le sujet du soir. Et nous serons également avec le collectif Éphémère, un collectif d'artistes engagés et solidaires. Leur exposition, prévue ce vendredi à Angers, est en suspens. Elle va être reportée, mais on va découvrir l'ensemble de leurs actions et qui ils sont. Cette émission a été préparée par Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Anne-Li.
Et par Céleste. Salut Céleste.
Salut Anne-Li.
Merci beaucoup à vous d'être à mes côtés. Pour vous faire réfléchir, j'ai choisi le proverbe suivant pour débuter l'émission. Et c'est « Le cordonnier doit s'arrêter à la chaussure ». Je vous laisse... Je vois que tout le monde hoche la tête et est en train d'assimiler l'information. Vous pouvez y réfléchir pendant le premier choix musical de cette émission. C'est Sorbet de Ulmo, un groupe qui m'a été soufflé indirectement par le collectif Éphémère. On l'écoute tout de suite.
Oh,
Alors ce soir, nous sommes en compagnie de trois membres du collectif Éphémère. Bonsoir Bobo Joanneau.
Bonsoir.
Bonsoir Bastien Cordeau.
Salut.
Et bonsoir Zéphir.
Bonsoir.
Donc vous êtes tous les trois artistes. Vous avez été à l'origine d'une levée de fonds sur la plateforme du financement participatif KissKissBankBank qui a récolté pas moins de 1470 euros pour le Secours Populaire. Donc la solidarité est assez au cœur de votre projet, comme on pourra le voir. Mais vous êtes surtout ici pour nous parler des Arts Mêlés, votre exposition au 122 Dire, lieu culturel ici à Angers, reporté pour cause de Covid, de couvre-feu, bref, de situation sanitaire, mais qui se tiendra bien à un moment. Donc on en parle quand même. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Et pour commencer, j'ai une question toute bête. Pourquoi le nom de collectif éphémère ?
Tu veux répondre ?
Tu prends le tour de parole.
Moi, je veux bien répondre, du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le collectif, il est né en début 2018. Et on avait des amis qui avaient pris des amendes suite à un procès, en fait, lors d'une manifestation. C'était un magnifique carnaval. C'était très intéressant ce moment. Et du coup, pour les soutenir, en fait, on avait monté une exposition un peu faite de briques et de broc à l'époque. C'était notre premier exercice de monstration. Et en fait, on a fait un événement dans un bar, du coup. Et ça avait pour vocation de rassembler un maximum d'artistes pour vendre des pièces à prix libre. Il y a eu deux concerts aussi. Les groupes ont joué gratos. Les cachets ont été mis dans la cagnotte. Enfin, il y a eu un peu cet élan on lâche rien, on est tous et toutes ensemble, on se soutient. Et en fait, on avait signé Collectif Éphémère parce que ça avait rassemblé beaucoup de personnes différentes. Sauf qu'on a continué.
Éphémère aussi, parce qu'on pensait faire qu'un événement, c'était celui-ci.
C'est ça, ouais. Du coup, en fait, c'est un processus qu'on a réitéré, du coup, puisque c'est un événement à part entière, du coup. Mais voilà, la petite anecdote, c'est ça.
Et votre groupe, donc vous êtes en fait tous les trois parties. Est-ce qu'il vous arrive de recruter des artistes ou comment ça se passe?
En fait, on est cinq membres fondateurs. On est tous passés par une école d'art. Et on fait à chaque fois, on sollicite la présence d'étudiants en art de plusieurs écoles différentes pour à chaque fois des causes solidaires. Donc tu as des étudiants en art ou même des artistes déjà professionnels qui viennent, que ce soit de Paris, de Tours, Angers, Le Mans, Nantes ou même de villes du Sud.
Enfin, c'est très local.
C'est très national, tout en fonctionnant avec des associations à chaque fois sur des plans locaux. Ouais.
Et comment on peut arriver du coup à faire des arts visuels dans un domaine assez politique comme le vôtre?
Tu peux répéter la question? J'ai pas saisi.
Arriver à un point de faire des arts visuels dans un domaine aussi politique que le vôtre.
Ou dans ce contexte aussi de solidarité, de soutien. Ouais. Pourquoi vous avez mélangé les deux aspects?
C'est ça.
Je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les copains, mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. La solidarité, pardon, de base, c'est un truc qui nous tient vachement à cœur. C'est aussi lutter contre toutes les merdes que peuvent être le sexisme, le racisme, l'homophobie, tout ce genre de saloperie, en fait la haine de l'autre. Et je pense que les néo-nazis, les néo-fachos en face ont la haine. Et puis nous, entre nous, en tant qu'artistes qui nous connaissons et en tant que, enfin aussi les artistes qui se joignent à nos projets, en fait nous, on leur répond par l'amour. C'est au final la plus belle des réponses, je pense.
C'est vrai.
En soi, c'est un peu utiliser les arts qui sont nous, nos armes, pour amener à quelque chose qui peut être plus grand que nous et qui fait que toute expression est là aussi pour porter un message de solidarité et d'action et une visibilité aussi sur les problèmes sociaux. On en a fait avec différentes associations pour différentes problématiques très graves. Mmh. Et on espère en fait que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes à utiliser l'art pour aider de ces causes-là.
Je compléterais aussi pour rebondir ce que vous dites. En effet, il y a un truc qui nous a paru important aussi, c'est de savoir où est-ce qu'on place de la matière artistique aussi. Ça a été un réel questionnement pour nous, de se dire, parce que bon, dans les écoles d'art, on nous demandait beaucoup de travailler sur des réflexions comme à quoi sert l'art, où est-ce qu'il doit aller. On se disait aussi tout simplement que, enfin, on se retrouve vite dans des codes en fait où l'art est élitiste, il est excluant, il n'est pas pour tout le monde et il a une utilité presque marchande, spéculative. Et je pense que nous, à notre niveau aussi, ce qu'on a essayé de faire tous et tout ensemble, donc les membres actifs et aussi les artistes invités, c'est aussi de créer des espaces de rencontre qui rassemblent en fait. Et on se rassemble autour de notions, de réflexions. Là, on travaille des expositions thématiques aussi sur certains sujets plus contemporains. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de faire corps un peu tous ensemble et tout, et de se rassembler en fait.
Sortir là un peu des lieux qui sont consacrés habituellement, quoi.
Et il y avait donc l'exposition des arts mêlés qui était prévue. Que pourra-t-on voir prochainement dans cette exposition ?
Ce qui devait être
voilà, c'est
normalement
ça.
Samedi prochain. Du coup, le vernissage était censé avoir lieu le 31.
Et qui a été reporté tout juste aujourd'hui.
Voilà, si ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, on pourrait y voir des productions très riches, d'une richesse, de différence des différents membres du collectif. Donc ça passe par de la gravure avec de la peinture, de la photographie, des arts textiles. C'est très très riche tout ça, parce que c'est aussi une de nos richesses, c'est qu'on pratique tous, on a tous une pratique extrêmement différente. Ça qui est assez passionnant.
C'est très pluridisciplinaire.
Exactement.
On parlait aussi de vos premiers projets, et puis encore d'autres, qui étaient vraiment initiés en solidarité, en soutien à des actions, à des causes. Est-ce que cette exposition, vous l'avez aussi pensée comme telle, ou pas forcément cette fois-ci? C'est montrer ce que vous faites, montrer le travail, ou est-ce qu'il y a une finalité de soutien?
Alors, ça a été un grand questionnement, du coup, et on s'est effectivement rendu compte aussi que c'était une exposition qui était moins ouvertement en lien direct, en fait, avec une cause. Mais en se disant ça, en fait, on s'est aussi rendu compte que, en fait, c'est aussi, s'accaparer des moyens pour faire de la monstration. Ulmo, le groupe qu'on a invité, et qui sont aussi des amis, c'est un climat très compliqué pour trouver des dates en ce moment, pour trouver des lieux d'exposition. Donc, moi, j'y vois aussi une espèce d'acte aussi de
soutenir la création aussi.
Ouais, de soutien à la création en général aussi. Puis, le 122 est assez réactif avec le projet et ils sont assez encourageants en tout cas.
Avec une volonté aussi de continuer à diffuser de la culture malgré le contexte ambiant, quoi. Ce qui est excessivement difficile, de faire tourner des groupes, d'organiser des concerts, des expositions, ce qu'on aime faire, quoi, c'est-à-dire des événements avec des rencontres, des gens qui viennent de tous horizons, qui se rencontrent, quoi. Donc c'était un peu l'idée sous-jacente de ce projet. Et ça l'est toujours, puisqu'il est que reporté, il n'est pas annulé.
C'est ça. Puis du coup, pour information, du coup, on est en train de suivre avec le 122 et les personnes qui gèrent la coordination pour trouver une potentielle date bientôt. Après, ça refera le même climat où si on refixe une date, on verra si c'est toujours possible ou pas. Mais le projet est en report.
Ouais.
Et durant cette exposition, il y avait une performance sonore de prévu avec le groupe Ulmo. Et pourquoi c'est ce groupe qui a été choisi en fait?
Parce qu'ils font de la super musique.
Parce que ça déchire.
Yes. Ouais, ça déchire. Mais on essaie d'en faire. On le fait depuis qu'on a commencé à créer ce type d'événement. T'as plein de groupes qui se sont succédés. Mmh. Là, c'était autour d'Ulmo. Et puis.
Et le choix du groupe d'Ulmo était assez pertinent dans le sens où, en fait, une des mesures que l'on se devait de respecter et qui était garante, en fait, du bon déroulé de l'événement avec les mesures Covid, hein, c'était les concerts assis. Et d'aménager une espèce d'atmosphère cabaret, tout ça. Et Ulmo, ils font de la musique assez atmosphérique. On se disait que ça collait bien dans le processus narratif de scénographie. C'était pertinent pour un concert assis.
C'est très inspirant aussi comme musique, pour la peinture, pour la danse et les différentes expressions. Ça fait voyager.
Et c'est quoi en fait le style de Ulmo, si on pouvait le décrire?
Alors, on a eu l'info il n'y a pas longtemps. Ulmo, j'ai l'impression qu'il et elle ne revendiquent pas vraiment de style à proprement dit, mais ce qui s'en rapprocherait le plus pour le codifier, on pourrait parler de pop rock alternatif. Aux dernières nouvelles.
En tout cas, on a entendu, on voit à peu près, et effectivement, on voit l'atmosphère, le calme.
C'est ça.
Je crois qu'ils sortent un EP prochainement.
C'est ça, bah, ils enchaînent pas mal de temps de résidence et de production. Là, en ce moment, c'est un groupe qui est aussi émergent et qui a, enfin, on trouve que ce groupe a du talent. On aimerait bien travailler avec eux, même pour de la scénographie, pour l'exposition, des projections. Il y a beaucoup de choses à imaginer avec ce genre d'artiste.
Et quelle est la ligne directrice de l'exposition ? Ou pourquoi vous avez choisi telle œuvre pour cette exposition en particulier ?
Bah, les œuvres, elles sont en cours de réflexion, si tu veux, toujours, du coup, vu que c'est reporté. Après, c'est surtout, je dirais pas qu'il y a tellement une ligne directrice. Nous, on s'intéresse beaucoup à la scénographie que nous permet le 122, qui est un lieu absolument magnifique, si tu veux, pour ce type d'exposition, ce type d'événement, qui mélange plusieurs types d'art, donc de la musique, des arts graphiques, picturaux, etc. Après, si tu veux, l'exposition en elle-même, elle a pas de thématique. En fait, les différents membres du collectif se viennent exposer leurs travaux personnels, et avec aussi également une partie des œuvres qu'on a pu réaliser ensemble et qui sont notamment du matériel graphique qu'on a mis à disposition pour différentes associations durant différentes manifestations, notamment à Angers, des manifestations contre l'homophobie, contre le sexisme, etc. Donc, si tu veux, il y a toute une production de pancartes, d'affiches, d'autocollants, enfin des images qu'on fait circuler, qui circulent, qui s'échangent d'une personne à une autre, en fait. Ça peut être aussi les travaux qu'on a fait. On a réalisé une fresque à 5 à la Grande Ourse, avec pareil, exactement nos 5 styles qui se mélangeaient. Donc, c'est ça un peu aussi ce qu'on essaie de montrer, ce sont nos travaux personnels qui n'engagent que nous au sein du collectif, et aussi toute notre production collective.
Ouais, moi, je vois ça un peu comme une symphonie musicale où vraiment chacun, chacune a un instrument, sa voix, sa tessiture et la manière de le poser, de se proposer, de composer. Et donc, la fresque de la Grande Ourse, elle en est très significative.
Chacun peut apporter sa touche artistique, en fait, c'est ça.
C'est ça, et en même temps, il y a il y a des réels questionnements, notamment pour cette exposition, en fait, qui était aussi une première pour nous en termes d'espace. C'est-à-dire qu'on a beaucoup œuvré dans des bars ou dans des lieux moins spacieux. Et du coup, là, d'envisager aussi des expositions de grand format, c'était assez intéressant pour nous, parce qu'il y a beaucoup de pratiques de peinture. C'est une discipline qui revient beaucoup, donc pouvoir exposer des toiles d'1m50 ou deux, c'est assez pratique. Et on essaie de construire la scénographie en partant de ce principe qu'on essaie d'accorder au mieux dans l'espace toutes ces intuitions et tous ces questionnements qui animent nos travaux, en fait, et d'en faire une espèce de parcours narratif.
Ouais, c'est ça, ça revient à composer en fait à 5 une scénographie, comme on a pu à la Grande Ourse composer à 5 une fresque murale, en fait. Qui est toujours visible, si vous voulez l'avoir, dépêchez-vous, parce que je crois que ça va pas être possible très longtemps. Ouais. C'est plutôt mal barré à ce niveau-là. Mais encore, on va pas se plaindre, hein, parce que nous, on sera pas évacués, on a encore un toit au-dessus de la tête.
Ouais, donc, on voit aussi que vous êtes assez liés avec la Grande Ourse. En tout cas, vous avez fait cette fresque, vous avez pu donner des ateliers aussi, ou des moments d'échange, de pratiques artistiques. Vous avez quelques nouvelles à nous donner aussi, si j'ai bien suivi, et je pense que vous êtes plus informé, il y a une mesure d'expulsion qui est en cours. Où est-ce que ça en est de ce côté-là ?
Eh bien, en fait, ils ont reçu l'avis d'expulsion pas plus tard qu'hier. Et normalement, le passage de l'huissier devait faire qu'ils avaient 2 semaines pour préparer une expulsion. Sauf que là, ça serait plutôt 2 jours. Et donc, là, c'est beaucoup de stress pour les habitants et les habitantes. Et une volonté aussi de ne pas se laisser écraser, parce que c'est quelque chose de bien plus global qui se passe au niveau du mouvement des squats et des droits humains, en fait, aussi. Et beaucoup de personnes vont se retrouver à la rue pendant une crise sanitaire durant l'hiver, parce qu'il y a eu une sorte d'annulation aussi de la trêve hivernale. Et donc là, oui, il y a vraiment une volonté de rester très soudée, dans une forme d'optimisme qui fait qu'il y a de l'action en préparation, notamment une sorte de manifestation festive qui aurait lieu le 31.
Ouais, donc c'est samedi le 31.
Voilà, samedi 31, il y a quand même quelque chose à faire, et à partir de 16h.
Disons que c'est assez agaçant quand même, parce que c'est tout de même.
Si le lieu n'a pas été violemment expulsé.
En tout cas, si vous êtes intéressé en nous écoutant par. Par ce qui se passe à la Grande Ourse, donc un squat au niveau de la Doutre, qui accueille des personnes qui y vivent. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, je pense que c'est là que les informations sont les plus fraîches, entre guillemets.
C'est ça.
Voilà, pour avoir aussi accès à la fripisserie et à toutes les animations et activités mises en œuvre pour gracieusement permettre aux gens d'avoir accès à un confort un peu vital et puis ouais, à leurs droits humains.
Ouais. On n'a plus beaucoup de temps, on est menacé par cette horloge. On vous reçoit pour une exposition qui va avoir lieu à un moment donné au 122, dès que possible. Là, avec le collectif éphémère, est-ce que vous êtes mobilisé sur d'autres projets, que ce soit des choses imaginées avec la situation qui est juste exceptionnelle et qui change un petit peu heure par heure presque. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment ?
Eh bien, déjà, au moins, on a pas mal de temps pour s'organiser au niveau des ateliers et au niveau de ce qu'on prépare. Le prochain projet vraiment concret à terme, là, ce serait le second volet de ce qu'on avait commencé avec le Secours Pop, qui sont devenus des amis un petit peu et à qui on a envie de continuer. Quelqu'un a envie de présenter un peu le retour sur la cagnotte, ce qui s'était passé.
Le premier volet, ouais, c'était un financement participatif.
C'est ça, un financement participatif où, bah, comme pour les systèmes de Arrête-moi si tu peux, qui ont été nos événements plus militants, où l'argent récolté était donné directement aux causes. Là, c'était une manière de récolter quelques fonds pour une cause qui nous tient à cœur. Et en même temps, pouvoir promouvoir la scène artistique qui nous fait vivre et pour laquelle on vit.
C'était la première fois qu'on initiait quelque chose comme ça, une exposition de vente d'œuvres d'art en ligne, en fait, par Internet, étant donné qu'on n'avait plus accès aux lieux d'exposition traditionnels. Donc, pareil, on s'est mobilisé tous les cinq, on a mis tout ça en place et on a fait appel à plein d'artistes de différentes régions, des artistes ou des étudiants.
Et donc, on a vendu des œuvres pour soutenir le Secours Populaire.
Les fonds ont été entièrement redistribués au Secours Populaire, qui en ce moment galère énormément avec la crise du Covid. Il y a une baisse de dons, beaucoup d'entreprises qui peuvent plus donner. C'est vraiment la merde. Et du coup, dans une volonté de continuer à diffuser la culture et en même temps, de façon solidaire, on s'est dit qu'on allait monter quelque chose avec eux. Et là, on va entamer le deuxième volet avec le Secours Populaire, qui consistera à la réalisation en fait d'une grande fresque collaborative sur le mur de leurs locaux.
Ouais. Vous allez inviter d'autres personnes à participer ?
Oui, c'est vraiment une idée.
Ouais, surtout en fait les bénéficiaires surtout principalement.
C'est ça.
Histoire de mettre un peu de bonne humeur et de joie dans tout ça. C'est quand même assez morose et difficile quoi.
C'est ça. Donc dans cette période où effectivement on s'était dit que ce qui nous occupait, ça peut être de jouer des contraintes et de ne pas s'arrêter, même si on ne peut pas faire des événements et que c'est reporté. On continue la diffusion, on continue le booking. Là, on travaille sur d'autres lieux aussi, entre Nantes, Bruxelles. Enfin, on travaille sur d'autres programmations aussi à Paris, mais en soi, là, on joue des contraintes et on travaille vraiment avec le Secours Populaire. Puis cette fresque, ouais, là, du coup, elle ferait sens. Parce qu'effectivement, elle ferait intervenir les personnes bénéficiaires. Là, en novembre, début novembre, on va rentrer dans la rédaction du projet à proprement parler, qui devrait arriver à peu près au printemps. Du coup.
C'est plutôt essentiel que les personnes elles, recouvrent aussi ce qui nous anime, c'est-à-dire un peu un pouvoir créateur que tout un chacun en fait dispose, mais que les gens ont un peu oublié ou qu'on les a aidés à oublier. Et donc si on peut aussi apporter ce visuel qui peut aussi amener aux gens quelque chose de plus profond, qui leur donne aussi envie d'agir de toutes les manières possibles, c'est bienvenu en fait.
Et si des personnes ont envie de suivre ce que vous faites, on peut vous suivre sur des réseaux ou...
Mmh. Ouais, sur Facebook, Collectif Éphémère.
Officiel, parce que nous sommes officiels.
Et puis on a aussi un Instagram qui s'appelle aussi Collectif Éphémère Officiel. Et il y a plusieurs personnes qui nous contactent pour participer, que ce soit au Arrête-moi si tu peux ou pour pouvoir organiser d'autres événements qui peuvent avoir de nouveaux formats.
Et pour ne pas se tromper, du coup, quand sur les réseaux, c'est collectif éphémère, où il y a un logo avec deux points levés, avec une trompette et un pinceau. Voilà.
Est-ce que vous, un petit mot pour la fin, pour conclure?
Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, super importantes?
Moi, je voulais passer très rapidement. Juste un petit mot pour dire que la compilation angevine de Run the Block est toujours en vente, en soutien au personnel soignant là qui se retrouve le nez dans la deuxième vague et pour lequel les conditions de travail ne se sont toujours pas améliorées malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu être dit. Donc la compilation angevine Run the Block, elle est toujours en vente. Vous pouvez passer sur le site internet en cherchant tout simplement Run the Block Angers, avec quand même 55 musiciens sur 3 CD. L'intégralité des ventes est reversée pour le personnel soignant pour améliorer leur conditions de travail.
Et les titres sont vraiment bien.
Ouais, ouais. Ils sont très bien. Okay. Ça fait vivre la scène locale et puis tout est solidaire quoi, là-dedans, donc c'est cool.
Puis un petit mot pour conclure, bah, merci de l'accueil déjà, c'est cool.
Ouais, merci à vous. Ouais,
c'est chouette.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu. On rappelle que votre exposition des arts mêlés est reportée mais se déroulera au 122 tiers-lieu culturel ici à Angers. On espère avoir une date prochainement, enfin sauf si on est
tous morts d'ici là.
Tous morts, ouais.
Il y a toujours pire.
C'était un plaisir de vous recevoir et
merci.
On vous invite vraiment à aller suivre, à suivre le collectif éphémère donc sur Insta et sur Facebook.
Et on mettra tous les liens sur le podcast de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. On poursuit l'émission en musique avec Idols, qui a sorti un album il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Et c'est Model Village. Je suis ravie de voir que ça réjouit à nos invités de ce soir. C'est pour nous mettre de l'énergie.
and twitches, and the villagers bury their riches. But the village doesn't know what riches. Just snitches, snitching on snitches. Only one thing to do in the village. Just say toodle-doo to the village. Toodle-fucking-doo.
Maintenant, on a la super patate, j'ai envie de dire, avec Idols. C'est toujours Radio G et l'oreille curieuse. Et je crois que c'est le générique avant toute chose, avant la chronique Le Prêt à penser.
Quel sentiment tu ressens? J'aimerais faire une introspection, quoi. Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Salut.
Salut Anne-Li, salut l'oreille curieuse. Donc effectivement, oui, nouvelle chronique du prêt à penser, hein, n'est-ce pas?
Oui, oui, voilà. J'ai des problèmes de cerveau, mais...
Ouais, non, mais on en a tous, hein,
mais tu sais, bienvenue,
c'est,
Nicolas.
C'est aussi pour ça que je suis là.
Hein. Oui, et oui, voilà. En tant que professionnel de psy, alors tu veux...
Voilà, c'est ça, voilà, on va y venir, professionnel de quoi, on va voir un petit peu plus spécialement. Donc le prêt à penser, en tout cas, c'est, pour rappel, la chronique psy qui essaye de pas trop se prendre la tête, mais un petit peu quand même, hein, parce que sinon, c'est pas une chronique psy, hein, on est d'accord. Donc moi, je m'appelle Nicolas Andrade, je suis donc psychologue clinicien, et aujourd'hui, je vais vous faire une chronique en forme de mini-guide sur comment s'y retrouver parmi justement les différents psys qui existent, hein, parce que ceux qui ont écouté le premier prêt à penser, on va y arriver, hein, il y a 15 jours, auront peut-être remarqué que je m'étais contenté du préfixe psy pour qualifier le thérapeute quand il en était question, et je l'ai fait volontairement, car il existe en effet plusieurs psys, parmi lesquels les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les psychothérapeutes, les psychopraticiens, bref,
la folie.
Pas toujours facile, c'est la folie. Donc effectivement, quand il s'agit de décrocher son téléphone pour contacter un professionnel, on ne sait pas trop qui appeler. Donc voici une petite présentation et je vais commencer donc par les psychiatres. Donc je vais dire quelque chose de très clair à leur sujet, déjà pour commencer. De tous les psys dont je vais vous parler, les psychiatres sont les seuls médecins. C'est-à-dire que ce sont les seuls à avoir passé avec succès le concours de médecine. Et ils ont ensuite suivi, comme tous les médecins, le tronc commun d'enseignement de la médecine, effectivement, avant de se spécialiser pendant 4 ans en psychiatrie. Voilà. Donc en tant que médecin, les psychiatres sont les seuls à être habilités à prescrire des médicaments psychotropes, type anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Ce qui fait qu'en règle générale, ils sont particulièrement indiqués pour les maladies psychiques sévères, qui nécessitent pour le coup des traitements médicamenteux en parallèle d'une éventuelle psychothérapie. Et d'ailleurs, attention, tous les psychiatres ne pratiquent pas forcément de psychothérapie. Certains se concentrent uniquement sur l'approche médicamenteuse, comme je viens de le dire. Et ça peut s'avérer un peu frustrant pour certains patients qui les rencontrent, qui s'attendent à quelque chose de plus personnalisé. Alors après, il y a aussi des psychiatres qui pratiquent des psychothérapies tout à fait normalement et qui sont très à l'écoute de leurs patients, hein. Autre spécificité importante du fait de leur qualité de médecin, une partie au moins des frais de consultation, dans la mesure où ils rentrent dans le cadre des actes médicaux, sont admissibles à un remboursement par la sécurité sociale, ce qui n'est pas du tout négligeable du point de vue du patient. J'en viens à la deuxième catégorie dont je fais partie, donc les psychologues. Et les psychologues, donc, ils sont diplômés, eux, d'un master 2 en psychologie clinique, souvent, hein, ce qui équivaut en gros à un bac plus 5. Ce qui fait que ce ne sont pas des médecins, ils ne prescrivent donc pas de traitement médicamenteux.
C'est pas la peine de leur demander, ce sera jamais le cas.
Voilà, ce sera jamais le cas, parce que tu seras d'accord avec moi, il vaut mieux que le cordonnier s'arrête aux chaussures.
On est d'accord.
On est d'accord. Leur consultation ne s'apparente donc en aucun cas à des actes médicaux, et de ce fait, eh bien, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Parfois, certaines consultations peuvent être prises en charge par certaines mutuelles, mais ça s'arrête là. Leur spécificité, elle réside dans le fait que l'intégralité de leur formation a été consacrée à la connaissance du fonctionnement psychique et de la pratique des psychothérapies. De ce fait, ils ont pu se former à différentes approches et choisir une plus particulièrement. Ainsi, il existe des psychologues orientés par la psychanalyse, d'autres par les théories systémiques, encore d'autres par des théories plus cognitivo-comportementalistes. Bon, c'est un petit peu compliqué dit comme ça, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique, mais en tout cas, ce qui est important pour les auditeurs, c'est que si vous allez voir un psychologue, n'hésitez pas à lui demander où est-ce qu'il se situe par rapport à tout ça, éventuellement, renseignez-vous un petit peu en amont pour optimiser vos chances que ce soit ce qui vous corresponde. J'en viens maintenant aux psychanalystes. Alors les psychanalystes, ils ont tous en commun de se référer à la théorie psychanalytique, donc c'est celle qui est initiée par Sigmund Freud entre la fin du 19e et la première moitié du 20e, on va dire. Donc depuis, bien évidemment, cette théorie, elle a bien évolué, il y a différents courants, et heureusement, voilà, bien sûr, c'est tout ça, c'est dynamique, c'est vivant. Donc il y a des courants qui sont apparus, et donc les psychanalystes, selon dans quel courant ils se placent, ils peuvent avoir des approches un peu différentes. Mais en gros, pour caricaturer vraiment le truc, c'est l'image typique du patient allongé dans un divan qui parle à son thérapeute, en général plutôt silencieux. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que le titre de psychanalyste, au contraire des deux précédents, il n'est absolument pas réglementé. C'est-à-dire que techniquement, n'importe qui peut se prétendre et s'afficher psychanalyste sans craindre de sanctions légales. Alors, je vais mettre un gros bémol à ça quand même, puisque dans les faits, la majorité, la grande majorité des psychanalystes sont en fait des psychologues et des psychiatres de formation, mais qui sont affiliés par ailleurs à des organisations, des écoles psychanalytiques reconnues et qui ont suivi un protocole strict relatif à ces organisations. Typiquement, il est souvent exigé que les psychanalystes puissent faire état d'une psychanalyse eux-mêmes personnelle en tant que patient de plusieurs années, laquelle leur permet d'accéder à une formation spécifique prodiguée donc par les organisations psychanalytiques qui peut durer encore plusieurs années supplémentaires. Donc on voit bien que devenir psychanalyste, selon le parcours en tout cas établi par ces écoles, n'est pas une chose aisée. Et bon, le fait que ce soit pas réglementé, ça suffit pas de qualifier tous les psychanalystes de charlatans, autoproclamés, etc.
Oui, ce qui n'est pas le cas.
Ce qui
peut sans doute
exister. Relativement pas le cas, voilà, mais c'est important quand même de le savoir, parce qu'effectivement, ça peut potentiellement exister. Donc, ben, encore une fois, en tant que patient, n'hésitez pas, n'ayez pas de complexe à poser des questions sur le parcours, sur la validité un peu de la personne que vous avez en face, parce que s'il a fait quelque chose de sérieux, il n'aura pas de problème pour vous le dire. J'en viens maintenant au cas particulier des psychothérapeutes. Puisque là encore, avant 2010, ce titre n'était absolument pas réglementé et c'était encore plus vague que pour les psychanalystes, parce que pour le coup, psychothérapeute, ça ne réfère même pas à une théorie, à une pratique particulière. Donc ça veut dire qu'avant 2010, n'importe qui pouvait visser une plaque de psychothérapeute devant sa maison et puis recevoir des patients et faire exactement ce qu'il voulait, voire n'importe quoi. Donc depuis 2010 et de façon plus tangible depuis 2012, l'État français a réglementé ce titre et désormais, seuls les psychiatres, les psychologues et les psychanalystes pouvant faire état d'une formation qualifiante peuvent utiliser ce titre. Alors forcément, le fait que ce titre ait été réglementé, ça a fait que tous les autres professionnels qui ne correspondaient pas au nouveau cadre ont dû se désigner par un autre terme et ce terme c'est psychopraticien. Voilà. Et ça va être le dernier psy que je vais évoquer ce soir. Parmi les psychopraticiens, vous pouvez trouver des hypnothérapeutes, par exemple des coachs, des sophrologues, etc., dont les formations relèvent en général d'organismes privés sur lesquels on a peu de recul, mais ce qui n'est pas pour moi une façon de les invalider ou de porter un regard péjoratif, c'est juste, encore une fois, important que les auditeurs le sachent. Le but étant, in fine, et je le répète, c'est vraiment ma position, que chacun trouve chaussure à son pied. On n'est pas très loin du cordonnier encore ce soir. Mais c'est très important parce que l'idée, c'est que chacun puisse trouver un interlocuteur en fonction de son histoire, de son parcours, de ses croyances parfois, avec qui le fait d'échanger puisse apporter un bien-être supplémentaire. Voilà. Et j'espère humblement que cette petite présentation pourrait y avoir contribué. Merci.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux. Super.
Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions.
Je t'en prie, Anne-Lie, je t'en prie, si je peux rajouter juste un petit quelque chose, parce qu'en rapport avec l'actualité, en tant que psychologue, il y a
des choses
qui sont importantes pour moi, de dire à l'antenne, puisqu'on parle tous d'une rumeur de ce soir 20h, de l'annonce d'un confinement, donc je ne sais pas si c'est le cas, je n'ai pas de source privilégiée, mais en tout cas, dans l'éventualité d'un confinement, je voulais juste dire que le précédent confinement nous avait quand même montré à nous, aux professionnels, de l'aide à la personne, à quel point ça pouvait avoir des effets désastreux psychologiques au niveau des familles, au niveau des personnes fragiles. Et je voulais préciser que le confinement précédent nous a amené, pour un grand nombre d'entre nous, dont je fais partie, à inventer aussi d'autres façons de rester accessible aux personnes pendant un confinement. Donc je parle de visio, de téléphone, parfois de dérogation pour aller rencontrer des gens à domicile. Et c'est très important que les gens sachent que tous ces dispositifs existent pour un grand nombre de professionnels et qu'ils peuvent appeler en cas de besoin qui ils peuvent appeler donc des professionnels qui soit leur proposeront quelque chose, soit j'espère auront l'amabilité de les orienter vers des confrères qui pratiquent donc des formes alternatives, on va dire, de consultation spécifiquement au confinement. Voilà.
Ouais, le mieux c'est d'appeler, de poser la question, voilà. Que ce soit un psy qu'on trouve sur internet, dans le bottin,
à
des assos de soutien, ça existe aussi.
Tout à fait, voilà. Il faut vraiment passer le pas d'aller demander de l'aide quand il y en a besoin. Voilà. Le confinement n'arrête pas tout, il y a des gens qui restent en veille et bien conscients des enjeux. Voilà.
Bon, on pense fort à vous. En tout cas, on est aussi inquiets, je crois. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines, peut-être.
On verra.
Je croise les doigts,
On va faire comme si. Hein.
On va faire comme si.
Et puis sinon, on inventera d'autres choses. Voilà.
Ouais, on inventera d'autres formes de radio. Voilà. En tout cas, le prochain Prêt à penser est prévu dans 2 semaines. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette oreille curieuse. Vous pouvez la réécouter en intégralité, car c'était une émission de qualité, sur le site de Radio G, à la page de l'oreille curieuse, bien sûr. On mettra en ligne toutes les infos sur les podcasts, certainement à l'aide de Céleste, grâce à Céleste, voilà, vous savez qui travaille ici. On se retrouve demain, je l'espère, à 18h10, et nous serons avec une émission tout en chronique et tout en joie également. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire des mails encourageants ou décourageants, plutôt encourageants s'il vous plaît, à prog.radio-g@gmail.com ou sur les réseaux sociaux de Radio G qui vont bientôt renaître de leurs cendres. Vous allez voir, ça va être formidable. À 19h, vous retrouvez Bande Geek Mafia, qui est motivée, déterminée, qui sont nombreux et nombreuses et joyeux. Je vous souhaite une très belle soirée, quelle que soit la chose qu'elle vous réserve. Je vous souhaite qu'elle soit heureuse et joyeuse. À demain.
Camo gris dans la blizzard map. Avant d'aller vers le sud, j'arrive au nord de la map. Fais belle qu'au bâtard qui te mordra à la main. Y'en a marre de la merde, on peut faire de la maille. Mais la marmaille, n'oublie pas la mort d'Adama. Non, non.
Esquimaux. Dans le bizarre comme des Esquimaux. Hameçon, canapé, gigot, Esquimaux. Ils pourront pas nous la faire comme aux Esquimaux. Classique, mais à quel niveau? 2002, ouais, les Esquimaux.
Young kid, what the fuck, bro? What happened to you? You just kicked like that, bro. Didn't say nothing, bro. You're a cheeky bastard. I see how you're moving. I see you're moving relative. You're moving mad, bro. I know you know what you're doing. You're a big man out here. I know that. But what I'm saying is don't get trapped by the pussy, bro.
It's not a word. Sex is the problem, man.
They took me like the light, a quiet boost, another piece of candy from your favorite neighborhood corner store. Sure, they should have sold the weight. A heavy burden to carry the bare soul slave. They didn't want to have a thing to do with. Can't blame them to your look, can't name them because they should have took under some whip protect. Stay with your kid, boy. Fuck around with be more. Make you look like a white in the Harlem shooting contest. I harness the fondest crooks, the phonics. Fuck grammar, ill manner. Don't stop with spank. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is. All you suck, motherfucker, take your breath. You look beat, I'm more, you're more than less. All ease up, motherfucker, take a breath. You look beat now, man, I suggest you take a rest. Can't say what I will or won't do. Stretch the height, you might wanna stay on your toes too. Secure a full view for good vision conditions. Lead you to assume why you assume I'm feeling uneasy. My pet is a broken shit, my thoughts, but my guts don't even believe me. Sleep don't believe me, it's like doom can see me. Got a whole lot of something, yeah, I constantly feel like nothing much. Just to ever resist, just like so much to claim moving. But nigga, I'm really touched, what was I drinking? Pulling under with a bop, but nigga, if you didn't pull me back,
spitting all the dudes you. What was he thinking? Man, I wanna do a smile too much. Yes, you too can get fucked up. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it. I'm sick with it. I'm sick with it. In the end, all these niggas gon' get with it. Now tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it. I'm sick with it. I stick with it. In the end, all these niggas gon' get with it. Now tell me what it look like. Tell me what it is. Tell me what it look like. Tell me what it is.
Sit the fuck down,
ain't no dancing, don't dance with it. My tongue is the drum, my mind's the machine. Non-dreamers fall fantastic extremes. Fall victim to the stink tank M16. Sound sharp, fix fit, crease, grease, stain clean. My tongue is the drum, my mind's the machine. Non-dreamers fall fantastic extremes. Fall victim to the stink tank M16. Sound sharp, fix fit, crease, grease, stain clean. Tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it. I'm sick with it, I'm stick with it. In the end, all these niggas gon' get with it. Now tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it, I'm sick with it, I'm stick with it. In the end, all these niggas gon' get with it. I'm sick with it, I'm stick with it. In the end, all these niggas gon' get with it. I'm sick with it, I'm stick with it. In the end, all these niggas gon' get with it.
Everything new. Creep out the school.
fuck on your bitch right now.
Radio G 101.5 FM.